et le Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 24 juin 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. La commission électorale du Malawi a appelé la population au calme pendant le décompte des voix du nouveau scrutin présidentiel. L'Assemblée nationale gabonaise a voté la dépénalisation de l'homosexualité. Heurts entre policiers et des centaines de jeunes manifestants la nuit dernière dans le sud de la Tunisie. Covid-19, poursuite du déconfinement dans le monde, mais le bilan s'alourdit à 475 000 décès et plus de 9 millions d'infections. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La commission électorale du Malawi a appelé la population à la paix et au calme pendant le décompte des voix après la présidentielle qui s'est tenue la veille. Le scrutin de l'année dernière avait été annulé pour fraude massive. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous appelons les Malawites à maintenir la paix et le calme pendant que le décompte se poursuit, a déclaré le président de la commission électorale, Chifudo Kachale, à Blantyre. De son côté, le président de la commission malawite des droits humains, Patrick Saint-Ferré, a exhorté tous les candidats et partis à prôner la paix et appeler leurs partisans à faire de même, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. La commission électorale a mis en place un système clair pour gérer des plaintes et nous exhortons les éventuels plaignants à y recourir pour le bien-être de la nation, a-t-il insisté. Trois candidats sont en lice, le président sortant Peter Mutharika, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera et Peter Kouani. Selon les nouvelles règles en vigueur depuis cette année, il faut désormais la majorité absolue des voix pour être élu au premier tour. Dans le cas contraire, un second tour opposera les deux candidats arrivés en tête. En mai 2019, la réélection de Peter Mutharika a été annulée par la Cour constitutionnelle pour cause d'irrégularité généralisée et systématique. Le Malawi est devenu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après le Kenya en 2017 à annuler une présidentielle.
En République démocratique du Congo, la police a dispersé des manifestants autour du Parlement à Kinshasa. Ils protestent pour le deuxième jour consécutif contre trois propositions de loi sur le fonctionnement de la justice portées par deux députés du Front commun pour le Congo. La police a effectué des tirs de sommation et usé de gaz lacrymogène. Les manifestants ont bloqué la circulation, attaqué des résidences de pro-Kabila et d'autres ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des cocktails Molotov. L'UDPS et la coalition Lamouka estiment que ces textes nuisent à l'indépendance de la justice. Au Gabon, les députés ont voté hier soir la dépénalisation des rapports homosexuels. Le code pénal avait été amendé il y a un an pour condamner l'homosexualité comme une atteinte aux mœurs. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Les relations sexuelles entre personnes de même sexe n'étaient pas formellement interdites au Gabon avant juillet 2019, date à laquelle un amendement au code pénal a été voté. Hier soir, 48 députés ont voté pour la dépénalisation. 24 étaient contre et 25 se sont abstenus. Cette proposition de loi a été portée par le Premier ministre gabonais, Julien Kobe Bekele, présent lors des débats. Depuis juillet 2019, les rapports entre personnes de même sexe étaient passibles de 6 mois de prison maximum et d'une amende de 5 millions de francs CFA. La dépénalisation a rencontré une opposition parmi les députés, mais aussi au sein de la population. 28 pays d'Afrique subsaharienne, dont le Nigeria et l'Ouganda et le Sénégal, ont des législations interdisant ou criminalisant l'homosexualité. Ces dernières années, le Botswana, l'Angola, le Mozambique et les Seychelles ont légalisé les relations entre personnes de même sexe, rejoignant la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC ou le Lesotho. En Afrique du Sud, le mariage homosexuel a été légalisé en 2006. C'était une première sur le continent.
Les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait plus de 1650 morts en 5 ans, y compris des civils et des militaires, selon un rapport publié ce mercredi affirmant que les forces de sécurité sont responsables de la mort de 588 civils. Entre avril 2015 15 et mai 2020, les groupes terroristes ont mené au moins 580 attaques ciblant surtout l'armée, des postes de police, des milices avec lesquelles l'État coopère, des écoles, des mairies, a indiqué l'Observatoire pour la démocratie et les droits de l'homme dans son rapport sur les violences au Burkina Faso. En Tunisie, des troubles ont eu lieu la nuit dernière à Douze et à Tataouine dans le sud du pays où des centaines de jeunes ont manifesté pour leurs droits sociaux, indiqué le ministère de l'Intérieur. Le point avec Nani Talani.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir devant une installation des forces de sécurité locales à Douze, au sud de Tunis, pour protester contre les perturbations de l'approvisionnement en eau, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Ayouni. Les manifestants ont également exprimé leur soutien au mouvement de protestation qui s'est intensifié ces derniers jours à Tataouine, à 200 km à l'ouest de Douze, pour réclamer des emplois promis par le gouvernement en 2017 et des investissements dans le développement de la région. Ils ont incendié des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Le calme est revenu dans la ville ce matin. La radio privée locale Mosaïque FM a signalé que des policiers ont été blessés et des voitures endommagées. Une réunion spéciale du gouvernement est prévue vendredi sur la situation à Tataouine, alors que le même gouvernement fait face à des tensions au sein de sa coalition.
Un meneur du mouvement de contestation à Tataouine a été libéré. Tarek Haddad avait été arrêté samedi et poursuivi pour participation à un attroupement de nature à troubler la paix publique. La justice algérienne a prononcé mercredi de lourdes peines de prison à l'encontre d'anciens hauts responsables politiques et un patron du secteur automobile lors d'un nouveau procès pour corruption. Sur les 17 personnes jugées, 15 ont été condamnées à des peines allant de 2 à 20 ans de prison. Deux autres ont été relaxées. Ahmed Ouahia, qui avait été premier ministre du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à 12 ans de prison ferme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que le déconfinement se poursuit dans plusieurs pays, le bilan du coronavirus continue de s'alourdir. Plus de 475 000 personnes sont mortes de la maladie sur près de 9 300 000 cas d'infection. Abdourahmane Dia.
Aux États-Unis, pays le plus touché au monde, plus de 121 000 personnes sont décédées suite au COVID-19 qui progresse rapidement dans des États comme le Texas ou la Floride. L'épicentre semble donc se déplacer du nord-est où les cas ont fortement baissé vers le sud où le port du masque fait débat. Ailleurs dans le monde, l'Amérique latine est fortement affectée avec le Brésil en tête avec plus de 52 000 morts. En Grande-Bretagne, les professionnels de la santé appellent le gouvernement à se préparer à une éventuelle deuxième vague. En France, deux écoles parisiennes ont été fermées suite à la confirmation de cas positifs de COVID-19. En Iran, les autorités appellent la population à porter un masque sanitaire. Le pays enregistre son plus haut nombre de décès quotidiens liés au coronavirus depuis début avril. Par ailleurs, l'Organisation internationale du travail dit s'attendre à ce que des millions de travailleurs migrants confrontés au chômage reviennent dans leur pays d'origine, notamment en Afrique et en Asie.
D'autre part, les États de New York, du New Jersey et du Connecticut demandent aux personnes venues de régions des États-Unis où la pandémie de coronavirus accélère de se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Le seuil des 10 millions de cas de COVID-19 dans le monde devrait être atteint la semaine prochaine, alors que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic dans la région des Amériques, a averti l'OMS. Le président kosovar Hashim Thaçi, inculpé ce mercredi de crimes de guerre par la justice internationale à La Haye, a annulé sa visite prévue samedi à Washington pour un sommet avec la Serbie, a annoncé l'émissaire américain pour ce dossier Richard Grenell. Les discussions sont maintenues entre le président serbe et le premier ministre kosovar. L'ONU et la Ligue arabe ont demandé à Israël d'abandonner ses plans d'annexion en Cisjordanie qui pourraient mettre fin aux efforts internationaux en faveur de la création d'un État palestinien viable, indique un appel conjoint formulé lors de visioconférences du Conseil de sécurité avec plusieurs ministres. L'objectif reste d'avoir deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, a déclaré Antonio Guterres. La décision sur une annexion Cisjordanie revient aux Israéliens, a déclaré quant à lui le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo lors d'une conférence de presse à Washington. La justice américaine a ordonné l'abandon des poursuites contre Michael Flynn, ancien conseiller de Donald Trump, qui avait reconnu avoir menti à la police fédérale sur ses contacts avec un diplomate russe. Une cour fédérale d'appel a donné raison au gouvernement républicain qui avait retiré en mai les accusations contre le général Flynn. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
En République démocratique du Congo, le mineur canadien Bonro Corporation a accepté de vendre sa mine d'or de Namoya Mining à un consortium d'investisseurs dont Bayerin International Investment et Chokma Resources. Bonro recevra une redevance perpétuelle pour toute la production de la propriété Namoya dans l'est du Congo, a-t-il précisé. L'accord est soumis à l'approbation finale du gouvernement congolais. Les administrateurs en charge de la compagnie aérienne sud-africaine Comair ont reçu une offre de financement sous forme d'emprunt pour tenter de restructurer la société. Les gestionnaires qui devraient présenter un plan de restructuration mardi ont demandé aux créanciers une autre semaine jusqu'au 30 juin pour finaliser l'offre avant de présenter le plan. En mai, Comair a dû déposer une demande de sauvetage d'entreprise, une forme de protection contre la faillite, après le confinement qui l'a forcé à suspendre tous les vols commerciaux. Pour terminer, le champion du haut de gamme BMW a annoncé la suppression de 6 000 emplois cette année. La puissante industrie automobile allemande devrait voir sa production chuter à 3,4 millions de véhicules, son plus bas niveau depuis 44 ans, ce qui pourrait entraîner la disparition de 100 000 emplois. Les constructeurs automobiles Jaguar Land Rover, Aston Martin et Bentley craignent de perdre un emploi sur 6, soit environ 25 000 postes. Ils ont déjà supprimé 6 000 postes depuis le début du coronavirus.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le marathon de New York, initialement prévu le 1er novembre, a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus. L'annonce a été faite par l'association New York Road Runners qui organise l'événement. C'est la seconde fois que la course de fond la plus populaire du monde est annulée après la parenthèse de 2012 consécutive au passage de l'ouragan Sandy. Toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball, le joueur des Los Angeles Lakers, Avery Bradley, a choisi de ne pas prendre part au championnat lorsque la NBA va reprendre la saison 2019-2020. Il a soutenu qu'il ne va pas risquer la santé de sa famille. « Je joue au basketball pour ma famille », a déclaré Bradley, ajoutant « Et donc, à un moment comme celui-ci, je ne peux pas imaginer prendre une décision qui pourrait mettre la santé et le bien-être de ma famille au moindre risque. » La saison va donc reprendre le mois prochain à huis clos à Orlando, en Floride, sans Bradley, dont le fils de 6 ans, Liam, a des antécédents de maladie respiratoire. Il a déclaré qu'il utiliserait son temps pour travailler sur les questions de justice sociale et d'égalité raciale. Sur le continent, je vous le disais hier, la Botola Premier League revient. Nous avons plus de détails sur ce championnat marocain de football qui va reprendre fin juillet. Pour rappel, le Wydad de Casablanca occupe la première place du classement, figé à la 21e journée d'un championnat qui en compte 30. Notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk, nous en dit plus.
Les équipes vont devoir retrouver l'entraînement à partir de jeudi. Il y aura une préparation en deux phases. La première de 10 jours avec entraînement en groupe. La seconde avec entraînement collectif jusqu'au 24 juillet, date du retour du championnat. Il faudra bien évidemment évacuer toute la période concernant les matchs en retard. Ce sera le cas entre le 24 juillet et le 8 août. Puis à partir du 12 août jusqu'au 12 septembre, disputer les 10 dernières rencontres qui vont permettre de faire connaître les équipes qui disputeront les compétitions africaines, le champion du Maroc et son dauphin pour la Champions League, et les équipes classées en 3e et 4e position en ce qui concerne la Coupe de la CAF. Il y aura un protocole sanitaire strict avec contrôle des joueurs tous les jours. Il y aura évidemment confinement des équipes dans les hôtels. Et puis, n'oublions pas qu'il y aura également et ça c'est le plus important, une programmation vue en conséquence avec les matchs disputés à 18h, 20h et 22h, les 5 changements qui seront permis et évidemment un protocole sanitaire et un suivi très rigoureux qui vont permettre au championnat marocain de se disputer et de connaître son dénouement. Le football au Maroc revit, la vie reprend son cours.
C'était Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca, au Maroc.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des centaines de manifestants, la plupart de l'UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, ont pris d'assaut les alentours du Parlement pour tenter d'empêcher le vote d'une loi de réforme de la magistrature qui donne un droit de regard du ministère de la Justice sur le parquet. Les manifestants se sont attaqués aux résidences de certains députés, dont celle d'Emmanuel Ramzani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila. La police a usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Eddy Isango a joint à Kinshasa le vice-président de la commission environnement de l'Assemblée nationale, François Zékouyé.
Je crois que c'est un malentendu. Les personnes qui s'élèvent contre cette proposition de loi ignorent que la constitution de notre pays depuis 2011 a titré les magistrats du parquet des personnes citées à l'article 39 de notre constitution comme étant membres des cours des tribunaux. Aujourd'hui, il est juste question de rencontrer les dispositions de la constitution et les adapter aux lois concernant la magistrature. Et encore, c'est quelque chose de tout à fait normal et banal, mais on a l'impression qu'il y a des compatriotes qui ne les comprennent pas et qui veulent instrumentaliser une certaine population pour aller contre le droit des députés d'exercer normalement son travail, de proposer une loi. Tout à fait qu'un débat s'en suive et les lois organiques sont soumises au contrôle de constitutionnalité. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'article constitutionnel devra se prononcer sur la conformité ou non de ces propositions de loi. Et donc, ça devrait se faire dans une certaine sérénité et laisser chacun faire son travail.
Et vous estimez que les gens qui manifestent sont manipulés?
Absolument, ils sont instrumentalisés parce que vous avez lu le communiqué de l'UDPS qui appelait les gens à manifester aujourd'hui et nous avons des informations selon lesquelles ces personnes ont été droguées avec de l'alcool fort et du chanvre pour aller attaquer les institutions et pire, aller s'attaquer au domicile des citoyens paisibles qui n'ont rien à voir avec une article de loi. Aujourd'hui, s'attaquer à la résidence de Al Shadari, s'attaquer à la résidence de Kimbuta ou de Kansaji, encore hier celle de Dominati, n'a aucun sens vis-à-vis d'un travail parlementaire. Je ne vois pas en quoi un député peut être agressé pour avoir exercé son travail. C'est inadmissible dans une démocratie.
Ce sont des centaines de personnes, vous dites qu'ils sont, ce sont des personnes droguées?
Oui, absolument. Nous allons les prouver et les attaquer en justice, évidemment, parce que nous savons qui sont derrière et il n'y a pas de doute qu'il y a des auteurs qui sont clairement identifiés. C'est les autorités de l'UDPS qui se comportent comme des délinquants pendant qu'ils sont au pouvoir.
Vous parlez de justice, mais les magistrats eux-mêmes sont opposés à ces propositions de loi.
On le comprend bien, mais aux États-Unis où vous êtes, je crois que le ministre de la Justice est le même procureur général. Dans quel pays au monde où le gouvernement met en place une politique pénale, mais il n'a aucun contrôle sur les magistrats? Et donc, ce n'est qu'une chose normale. Les innovations qu'on amène ne donnent pas droit au ministre de la Justice d'entraver les cours de l'institution judiciaire. Il veut donner des options, comme cela a été le cas d'ailleurs dans notre pays, c'est le gouvernement à travers le ministre de la Justice qui a instruit le parquet près de la Cour de cassation d'entamer des enquêtes sur les dossiers de sanglier qui a abouti à des condamnations il y a quelques
temps. Mais est-ce que ce n'est pas une tentative de caporaliser la justice au moment où la justice essaye de se relever?
Je pense en faux, parce que si vous avez eu les textes en question, est-ce que vous voulez citer un seul article qui montre que les magistrats, par ces réformes, vont être caporalisés par le ministre de la Justice?
Le député François Zékouyé, président de la commission environnement à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Après avoir constaté une baisse des cas de Covid-19 au Tchad, le comité de gestion de la crise sanitaire dirigé par le président Idriss Déby a décidé de la reprise des cours pour les classes d'examen et les universités le jeudi 25 juin. Une reprise qui doit se faire sous certaines conditions, notamment le strict respect des mesures barrières. Le point avec André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Les temples du savoir sont fermés depuis 3 mois et 1 semaine pour prévenir le risque des propagations du coronavirus. Pour tenter de rattraper le temps perdu, les autorités de N'Djamena ont fait une faveur aux élèves des établissements publics et privés et aux étudiants de certaines universités. Les élèves en classe d'examen de 3e et terminale ont 1 mois de cours pour préparer le brevet d'études fondamentales et le baccalauréat pour éviter une année blanche. Oudengar David, ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Les dispositions nécessaires ont été prises en termes de pulvérisation des salles, en termes de mesures qui ont été prises pour permettre de respecter la distanciation, même s'il y a des petites choses à régler.
Abdersalam Idriss Mahamat, proviseur du lycée technique commercial qui a plus de 600 candidats, a dit à VOA Afrique que pour respecter la distanciation physique, chaque classe est scindée en deux.
Ce qui nous donne un effectif inférieur à 30 par élève. La deuxième chose, que tout le monde puisse passer par un dispositif pour prélever la température. Et le ministère s'est engagé de mettre à notre disposition de thermoflash. Et en plus de ça, il n'y aura pas une récréation. C'est vrai, on nous a dit que la capacité quand même de concentration d'un élève ne dépasse pas 1h30, mais toutefois nous allons faire des pauses de 5 à 10 minutes seulement dans les salles de classe.
Un autre grand lycée de la capitale se trouve à un jet de pierre du lycée technique commercial. C'est le lycée Félix Eboué qui compte 16 classes de terminale littéraire. C'est là aussi où est logé le lycée scientifique avec 12 classes de terminale scientifique dont Shamshaldin Mahamad Dab en est le proviseur.
Nous avons fait un élève par table de façon brisée. Les enseignants qui intervenaient en terminale vont conserver leur classe.
Cette manière de procéder aura une répercussion négative sur les élèves, estiment les enseignants.
C'est pas tous les professeurs qui sont à la hauteur des classes de terminale. Et donc, si jamais on les affecte comme ça, ça posera des problèmes de transmission.
Miaounoum Nadi, proviseur du lycée privé Les Excellents, il évoque d'autres contraintes.
Vous savez que beaucoup des établissements aujourd'hui sont inondés. Aujourd'hui, c'est un prétexte pour beaucoup des enseignants qui sont capables de dire que non, il a plu, il y a l'inaccessibilité dans l'établissement. Et donc, il n'y a pas un enseignant en salle, plus les élèves vont s'entremêler et les risques de contamination vont aller grandissant.
Un mois de cours complémentaires, les élèves estiment largement suffisant pour préparer et réussir les examens.
Depuis 3 mois, là, j'ai la paresse, je ne lis même pas mes cahiers. Aujourd'hui, je suis venue voir le lycée comme ça, je suis contente même.
L'examen se prépare dès la rentrée. Donc, les 3 mois qu'on a passé à la maison ne veut pas dire qu'on va rater l'examen. On va avoir notre bac avec mention.
Le syndicat des enseignants du Tchad, section départementale, qui conditionnait la reprise des cours au paiement des sommes dues aux ceux qui ont participé au téléenseignement a suspendu sa menace de grève et donne 3 semaines au gouvernement pour satisfaire cette revendication. André Kodumajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ces derniers mois, le Liban a été frappé par une série de crises, des manifestations de masse, un effondrement économique et le blocage dû au coronavirus. Cette situation a laissé des centaines de milliers de travailleurs migrants, dont beaucoup de femmes, dans des conditions de vulnérabilité. Un reportage de Jacob Roussel à Beyrouth avec un récit de Yacouba Ouedraogo.
À côté d'une route principale très fréquentée dans une banlieue de Beyrouth, un taxi dépose une femme éthiopienne, bouleversée et désorientée au seuil de la porte du consulat de l'Éthiopie. Elle rejoint plusieurs de ses compatriotes s'abritant sous des auvents. Jusqu'à récemment, ces femmes faisaient partie d'environ 300 000 travailleuses domestiques au Liban. Aujourd'hui, alors que l'économie s'enlise et que leurs employeurs réduisent leurs dépenses, elles sont abandonnées aux portes de leur consulat. Cette femme éthiopienne qui a voulu garder l'anonymat raconte qu'elle a travaillé ces 2 derniers mois sans être payée.
Je leur ai dit, laissez-moi rester avec vous jusqu'à l'ouverture de l'aéroport. Mais ils ne m'ont pas laissé. Où pensez-vous qu'ils m'ont envoyé? À l'agent qui m'a fait travailler dans d'autres maisons. Je le jure, je ne pouvais même pas lever les mains. Même mon nez me faisait mal. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé pendant cette période. Ma tête, je ne me suis pas reconnue. Puis ils m'ont donné mon passeport avec le reste de mes affaires et m'a déposé devant l'ambassade.
Les activistes considèrent les décisions des employeurs d'abandonner ces travailleuses comme des calculs financiers froids et inacceptables. Mekdes Ilma est activiste à l'association Egna Legna, une association féministe qui lutte contre le racisme au Liban.
Ils agissent de façon irresponsable, ils amènent des filles et les jettent ici et utilisent le coronavirus comme excuse. Mais ils ne peuvent pas tout simplement les payer équitablement. Ils n'ont pas de conscience. S'ils avaient une conscience, ils ne les jetteraient pas ici. Ils les garderaient chez eux jusqu'à ce que les choses s'arrangent.
Avec la multiplication des crises économiques et politiques au Liban, ce problème ne fait que s'aggraver. Farah Salka est activiste avec Anti-Racism Movement, un mouvement antiraciste.
Ce qui se passe au consulat éthiopien ne touche pas seulement les Éthiopiennes, mais les Éthiopiennes sont aujourd'hui la plus grande communauté de travailleuses domestiques étrangères au Liban. Cela se produit avec d'autres nationalités et dans d'autres consulats.
Les responsables consulaires éthiopiens n'ont pas répondu aux multiples demandes d'interview de la VOA. Jusqu'ici, les femmes continuent d'être larguées devant les portes de leurs représentations diplomatiques, abandonnés à leur sort dans un pays où les conditions continuent de se détériorer.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump était mardi dans l'Arizona, dans le sud-ouest du pays, pour inspecter le mur frontalier avec le Mexique. Il a prononcé un discours pour souligner ses réalisations en matière d'immigration. Cette semaine, M. Trump a signé un décret pour suspendre certains visas de travail afin, dit-il, de mieux protéger les emplois américains. Patsy Widakuswara, correspondante à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit de Lionel Gay.
Le président Donald Trump a visité une section du mur dans le comté de Yuma en Arizona et y a apposé sa signature. Pour marquer les 322 kilomètres de mur que son administration dit avoir construit le long de la frontière avec le Mexique.
Il s'agit de la structure la plus solide et la plus complète au monde. Elle possède une incroyable technologie que personne ne pourrait croire, avec des capteurs, des caméras et tout le reste.
L'administration Trump prévoit de construire 725 kilomètres d'ici la fin de l'année. Selon la police des frontières, la majorité du mur construit a remplacé d'anciennes barrières. Parallèlement, M. Trump a signé un décret suspendant certains visas de travail, y compris les visas H-1B, pour des domaines spécialisés comme la haute technologie jusqu'à la fin de l'année. L'administration a fait savoir que le décret va aider les Américains cherchant du travail pendant la pandémie de coronavirus. Mais la mesure est critiquée par les géants de la technologie comme Amazon, Google ou Microsoft qui font venir chaque année des milliers de travailleurs étrangers hautement qualifiés. James Petrokoukis est analyste à l'American Enterprise Institute.
Certaines compétences peuvent ne pas être facilement reproduites par les travailleurs déjà sur place. Je pense qu'il y a une perception qu'un technicien est un technicien, mais il y a beaucoup de différences très spécifiques, particulièrement dans ce domaine des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas mettre une annonce dans un journal et avoir aussitôt 20 personnes à votre porte qui peuvent faire le travail.
Le décret affecte des centaines de milliers de travailleurs étrangers, y compris la plupart de visas H-2B pour les travailleurs saisonniers non agricoles et plusieurs autres catégories. Hassan Ahmad, avocat en immigration.
Les visas J comprennent les jeunes au pair, les étudiants étrangers, les universitaires et les chercheurs invités et même les médecins étrangers. Il y a aussi les visas L qui sont des visas de transfert entre sociétés pour les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires et les personnes ayant des compétences spécialisées.
Au cours du week-end, le premier meeting de Donald Trump depuis le début de la pandémie a été marqué par une participation plus faible que prévue à Tulsa, en Oklahoma. Avec sa visite à la frontière, le président a cherché à revitaliser sa base en affichant sa fermeté sur l'immigration, une promesse de la campagne.
James Petrokokis de l'American Enterprise Institute.
Cela semble faire partie d'une conception économique plus large et d'une philosophie politique que l'immigration est mauvaise pour l'Amérique. Et dans la mesure où les leaders républicains, y compris le président, pensent que c'est ce que veut leur base, ils essayent de le leur donner.
Le chef de l'exécutif américain a terminé sa visite en Arizona par un discours de campagne lors d'un événement de Student for Trump, les étudiants pour Trump.
La gauche radicale déteste notre histoire. Ils détestent nos valeurs et ils détestent tout ce que nous valorisons en tant qu'Américains. Et nous avons raison. Parce que notre pays n'a pas été grand avec eux. Il est devenu grand avec nous. Votre pensée et votre idéologie.
Alors que l'Arizona est traditionnellement considéré comme une valeur sûre pour les républicains, il est devenu un champ de bataille où les résultats des élections de novembre prochain restent imprévisibles.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique.